François Gagnon, 17h27, presque 28, on commence par Airbnb qui, oui. On le sait, fait des affaires d'or. Mais il y en a qui ne sont pas contents. Ça fait un bon bout de temps qu'ils ne sont pas contents, François.
Oui, tout à fait. Alors, on l'a vu avec l'Association des hôteliers canadiens. On l'a vu avec l'Association des hôteliers québécois. Aujourd'hui, Québec solidaire s'en est mêlé. Puis on dit au gouvernement, là, il faudrait peut-être resserrer encore plus que ce que vous avez dit lors des dernières semaines, alors que les règles vont changer à compter du 1er septembre. C'est-à-dire que si vous voulez louer une résidence secondaire, par exemple, vous devrez absolument posséder un permis d'hébergement commercial. Alors, à ce moment-là, la fameuse taxe d'hébergement de 3,5% sera donc prélevée. Votre prix sera majoré de 3,5%. Mais les associations hôtelières, elles, prétendent qu'on devrait aller plus loin, dans le sens où on devrait lutter à armes égales. Lors du dernier festival, je pense que les chiffres, Airbnb se tire dans le pied des fois, tu sais, quand ils sortent leurs propres statistiques, là,
oui.
Juste pour attirer les gens, dire, regardez, là, c'est payant de pouvoir louer votre maison, de oui. louer un appartement, etc. Pendant le festival d'été de Québec, on a dévoilé que ça avait attiré près de 23 000 personnes et permis aux gens de récolter 2,7 millions de dollars. Alors, 2,7 millions, ça commence à faire de l'argent, puis ça gosse pas mal les hôteliers à Québec.
Avec raison c'est, aussi.
Alors, eux disent, il faudrait qu'ils luttent à armes égales, c'est-à-dire qu'ils prélèvent de façon automatique. Peu importe qui, là, qu'ils prélèvent de façon automatique la taxe d'hébergement, qu'ils prélèvent la TPS, la TVQ, et également, c'est sûr et certain, là je vais mettre les gens en garde aussi, là, payer ses impôts. Si vous faites de la location Airbnb, dites-vous que le gouvernement du Québec, si vous vous annoncez sur le site d'Airbnb, le gouvernement du Québec est capable d'aller vérifier. D'ailleurs, on va rajouter 25 agents supplémentaires à Revenu Québec pour être capable de surveiller tout ça. Donc, dites-vous qu'au cours des prochains mois, ça risque d'être un peu plus difficile de faire de l'argent sans les déclarer à Revenu Québec. Ceci étant dit, 2,7 millions, j'ai fait un calcul rapide, impôts, TPS, TVQ et également la taxe d'hébergement, c'est quand même 1 300 000 $.
Hippolyte!
Ça, c'est de l'argent qui s'en va pas dans les poches du gouvernement, d'une part, et ça veut dire que c'est 1 300 000 $ de moins que ce que les locataires normaux, c'est-à-dire les hôteliers, font parce qu'eux sont obligés de charger et c'est certain qu'avec une moyenne de 123 $ par nuit, et quand tu vas au Festival d'été de Québec, ça te coûte au moins 200 aller te loger dans un hôtel, 200 plus les taxes, TPS, TVQ, plus le 3,5%. Et n'oubliez pas que TPS, TVQ taxe également la taxe d'hébergement. Alors, vous allez voir que ça vient assez vite. Alors, c'est pour ça qu'il y a comme un gros tollé parce que c'est quand même des revenus, dit-on, en tout cas selon les chiffres d'Airbnb, au Québec seulement, autour de 260 millions de dollars annuellement. C'est de l'argent, bébé.
C'est beaucoup, beaucoup d'argent.
Oui.
Puis on peut comprendre. Puis, tu sais, les hôtels, effectivement, tu payes ta chambre, tu payes ici, tu payes ça. Puis après ça, il faut que tu payes tous tes repas. Alors que si tu vas du côté d'Airbnb, l'avantage, c'est que t'es comme en appartement, etc., dans bien des cas. Fait que, mais c'est ça. C'est comme une lutte inégale pour l'instant.
Oui, tout à fait. Mais là, ici, au Québec, on serre la vis à partir du 1er septembre. Mais là, on voudrait que le gouvernement canadien fasse la même chose à grandeur du Canada. Parce qu'il n'y a pas de taxe d'hébergement, il n'y a pas de permis.
Est-ce qu'ils vont le faire?
Regarde, les élections s'en viennent, c'est pas pour rien qu'on commence à faire de la pression.
Bon, voilà. Et puis, un sondage, t'as piqué ma curiosité tantôt, parce que je ne l'ai pas vu. J'ai essayé de fouiller tantôt sur le web. J'en ai trouvé un, mais je ne suis pas sûr que c'est le bon.
Un sondage de la
Banque Royale qui montre qu'on n'est pas prêt pour la retraite.
Non, mais ça, c'est pas surprenant. Parce que, regarde, cette année, là, on estime qu'il n'y a pas la moitié des Québécois qui a contribué à son REER. Il y a de moins en moins de gens qui ont des régimes privés de retraite, donc un fameux RPA. Les gens contribuent, oui, un petit peu plus à leur CELI qui est devenu plus populaire que le REER. Sauf que moi, c'est les chiffres à l'intérieur de tout ça là, qui m'ont surpris un peu. Parce que quand on regarde le montant qu'on pense devoir épargner pour prendre sa retraite au Québec, ça, c'est des vœux pieux, c'est un sondage. On dit qu'à peu près à 800 000 $ on devrait être capable de s'en tirer. Mais montant que j'ai déjà épargné pour la retraite, dans le sondage, on parle de 606 000 $. J'ai dit « wow ». Fait que là, j'ai remonté un peu les études de Statistique Canada.
Ils disent qu'à 606 000 $, on serait correct?
Non, ils disent que les gens ont épargné, selon le sondage, le montant que j'ai déjà épargné pour la retraite, 606 000 au Québec.
OK.
J'ai été surpris un peu parce que je regardais un sondage de Desjardins il n'y a pas plus tard même pas un sondage, c'est une étude, et même de Statistique Canada, que j'ai vérifié il y a quelques instants au recensement de 2016, et j'arrive pas au même montant partout, là. Et là, on parlait de 360 000 $ environ, et ça comprenait la valeur de ta maison. Alors donc, le message que je voulais passer encore une fois aujourd'hui, même si on est en plein été et que c'est peut-être pas le temps de parler de retraite ou encore de parler de d'épargne pour sa retraite, faut en parler à longueur d'année. Moi, c'est ma prétention. Pas strictement pendant les périodes du mois de janvier, février, où on fait beaucoup d'annonces pour épargner dans les REER. Il faut épargner plus rapidement possible. Puis, tu sais, le vieil adage qui disait, moi, quand j'étais aux études en économie et que j'avais commencé un peu de planification financière, il tapait ses oreilles en disant, la meilleure façon de calculer, c'est arriver à la retraite 70% de la moyenne de tes revenus. Que t'avais quand t'étais au travail. Aujourd'hui, c'est plus vrai, ça. Peut-être qu'à 43%, ça peut suffire si t'as pas de dette du tout, là.
Ouais.
Alors, donc, le montant, le fameux montant d'$1 million qu'on nous tape sur les oreilles tout le temps, là, c'est peut-être pas vrai non plus. Peut-être qu'à 400 000 puis qu'à 43% de tes revenus, ça va être correct.
Oui, oui, puis ça dépend de tes besoins, ça dépend de ton...
C'est parce que les gens, ils ont des vues irréalistes. C'est-à-dire, moi, quand je vais prendre ma retraite, je vais faire des voyages, 3-4 voyages par année, je vais jouer au golf.
Qui va les payer?
Ben, c'est ça. À la retraite, ça marche pas de même.
Ben, c'est pour ça, puis on va se laisser là-dessus, François. Oui. C'est pour ça qu'il y a ben du monde qui ont pris leur retraite puis qui ont cherché un nouveau travail après.
Oui, tout à fait. Puis en plus de ça, il n'y a pas seulement une question, au niveau psychologique aussi, là, parce qu'il y a beaucoup d'études là-dessus. Au niveau psychologique, tu sais, quand du jour au lendemain, tu arrêtes de travailler, là, tu te dis, là, regarde, les deux pieds, ça pète de poil, puis je vais aller jouer au golf demain, puis je vais faire un voyage au Mexique la semaine prochaine, puis ça marche pas. Faut le payer d'abord, puis deuxièmement, à un moment donné, au bout de 6 mois, ça vient plate de toujours faire les mêmes affaires. Là.
Voilà.
Les gens retournent au travail souvent de fois parce qu'ils s'ennuient à la maison.
Exactement. On se laisse là-dessus, François. Merci beaucoup. À demain.
Au revoir.